Bonjour, donc on est ici pour vous parler d'aquaponie et vous expliquer en quoi ça peut être pertinent pardon, dans l'espace urbain et vous présenter un projet. Je te laisse te présenter peut-être Sandra.
Oui, voilà, donc en fait je vais me présenter à vous, je ne sais pas si on m'entend bien. Donc je suis Sandra Charretier, cofondatrice de la société Pollinaire Farm. Avant de développer un peu plus sur Pollinaire Farm, je vais vous parler plus de mon cursus. Après 20 ans d'industrie agroalimentaire et tout ce qui s'y passe, j'étais plus vraiment en phase avec mon métier, donc j'ai fait le choix de me tourner vers tout ce qui était permaculture. Et naturellement, j'ai atterri sur l'aquaponie qui m'a vraiment branchée. Et j'ai eu la chance de rencontrer Greg, mon formateur, qui aujourd'hui est à mes côtés. Et la chance aussi que j'avais de plus, c'est qu'il n'était pas très loin de chez moi, il était à moins de 20 km de Bordeaux.
Donc moi je suis Grégory Bitton, fondateur de aquaponie.net, qui est une société qui propose du conseil autour de l'aquaponie. Et on va vous parler un peu de nos expériences. Je commence par la définition, l'aquaponie. L'aquaponie, c'est la culture de poissons et de plantes ensemble, dans un écosystème construit en circuit fermé de l'eau, en utilisant des cycles bactériens naturels pour transformer les déchets des poissons en nutriments pour les plantes. Donc c'est une façon écologique et naturelle de produire de la nourriture sans avoir besoin de rejeter de l'eau, de la filtrer ou d'utiliser de fertilisants chimiques. Aquaponie, c'est un mot valise. Aquaponie, ça vient de aquaculture. Ah, on se perd. Allô, allô. Aquaculture et hydroponie. L'aquaculture, c'est l'élevage de poissons. Vous m'entendez encore ou moi, je m'entends plus, mais c'est pour ça. L'aquaculture, donc c'est l'élevage de poissons. On a pas mal surpêché les océans, on rentre un petit peu en limite de capacité sur ces problèmes, sur ces pêches du coup. Et du coup, on s'est mis à développer pas mal l'aquaculture, qui consiste en gros en France à détourner un bras de rivière et faire essentiellement de la salmoniculture, la culture de truite sur des eaux de rivière. Un des avantages, c'est que c'est un moyen très efficace de produire des protéines animales saines. Bon, je ne vous refais pas le topo sur les bénéfices de manger du poisson. C'est aussi un moyen très, très efficace. Je vous donne quelques chiffres comme ça. Il faut environ 15 kg de nourriture à un bœuf pour produire 1 kg de chair. Il va falloir 3-4 kg à un poulet pour produire 1 kg de chair. Et il faut quelque part entre 1 et 1,5 kg de nourriture à un poisson pour produire 1 kg de chair. Donc intrinsèquement, c'est une méthode très efficace pour produire des protéines animales. L'inconvénient, c'est que l'aquaculture, qu'on va dire classique, donc celle qui était de détourner un bras de rivière pour élever des poissons dedans, elle produit une pollution. La pollution, c'est les déjections des poissons. Et du coup, on a des capacités à élever du poisson et à rejeter ces pollutions dans l'environnement qui sont assez limitées. Vous avez tous entendu parler des marées vertes en Bretagne avec les élevages de porcs, par exemple. On peut avoir ce même genre de problème avec des élevages de poissons si on commençait à vraiment intensifier ça sur le milieu naturel. Ça consomme beaucoup d'eau, du coup. On prend une eau propre qu'on va polluer, même si c'est une pollution qui est organique, hein, qui n'est pas dangereuse, mais c'est une pollution quand même. Et puis, c'est assez complexe, ça nécessite des infrastructures importantes, etc. Donc aquaponie, c'était aquaculture et hydroponie. Hydroponie, c'est la culture de plantes hors sol. C'est aujourd'hui à peu près 40% de la production de légumes qu'on consomme en France. D'accord ? Donc c'est très répandu et c'est pas si connu que ça. C'est quoi ? On va faire pousser les plantes en fait dans des solutions qui sont de l'eau et des fertilisants chimiques. D'accord ? Alors elle a des avantages cette culture, c'est une croissance des plantes très très rapide parce que les plantes ont directement accès aux nutriments dissous dans l'eau. C'est une culture qui est hors sol, donc elle est on va dire préservée de tout ce qui est parasite issu du sol. Et du coup, ça permet d'alléger tout ce qui est traitement pesticides, hein, quand même. Et ensuite, il y a une possibilité de planter à très forte densité. Donc, c'est intrinsèquement un moyen très, très intensif qui consomme peu d'espace. L'inconvénient, c'est qu'on va fertiliser les plantes à base de solutions chimiques à 100%. Quand je dis chimique, il y a des minéraux extraits du sol directement. Et puis, il y a de la chimie de synthèse pour tout ça. C'est une culture assez technique. Et puis, les solutions chimiques donc dans lesquelles poussent les plantes sont à renouveler régulièrement. Donc, on va là aussi générer des pollutions qu'il va falloir traiter. La bonne idée de l'aquaponie, ça va être de coupler ces deux techniques pour finalement, en fait, garder tous les avantages et supprimer les inconvénients. Tous les inconvénients que je viens de vous citer sont assez bien résolus par l'aquaponie. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Les déjections des poissons sont recyclées dans le système en éléments fertilisants pour les plantes, donc de manière, c'est des fertilisants organiques, hein, au même titre qu'on va utiliser des fumiers pour faire pousser des plantes en sol. Les plantes, en consommant ces nutriments, vont venir épurer l'eau, sur le principe de la phytoépuration. Du coup, l'eau est recyclée et recirculée en circuit fermé, et puis on va réduire drastiquement les consommations d'eau. Hein. On est vraiment sur une boucle fermée de l'eau. On estime qu'on gagne, qu'on consomme 90% de moins d'eau qu'un maraîchage classique en sol. Et puis pour la même quantité de ressources initiales, l'intrant qui rentre dans le système, dans cet écosystème qu'on va recréer, l'aliment poisson, et on va avoir à la fois une production de poissons et une production de plantes. Voilà, ça ressemble à ça. Le cycle, hein, c'est on nourrit les poissons défèquent dans l'eau, l'eau chargée par les... Oh, j'ai un petit pointeur là-dessus, c'est ça ? Non. L'eau chargée est recyclée par des bactéries, donc les processus bactériens naturels qui sont dans les systèmes aquatiques ou dans les sols, en nutriments pour les plantes. Les plantes croissent en consommant ces nutriments et du coup nettoient l'eau. Et on peut fermer la boucle, on a renvoyé l'eau propre aux poissons. Ok ? Alors pourquoi on voudrait faire ça en milieu urbain ? C'est réellement productif. On a beaucoup d'expériences d'agriculture urbaine qui ont vocation plus pédagogique. Notre objectif à nous, c'est vraiment de faire de la production et de nourrir les gens. Donc par rapport aux surfaces occupées, on a vraiment un rendement important. On voit clairement que là, on va simplifier énormément la chaîne logistique. On peut faire directement du producteur au consommateur. En ville, c'est assez pertinent. Et du coup, on a une fraîcheur qui est imbattable dans le sens où... pour notre part, je vous parle après de notre ferme, tout ce qui est vendu à nos clients a été récolté du jour. Quoi. Et c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à trouver en milieu urbain. Pas de pesticides, on est sorti du sol, on a des conditions de culture qui sont très favorables aux plantes et ça va pouvoir permettre d'avoir des plantes qui sont fortes et qui sont du coup beaucoup moins sensibles aux attaques. Et on va par nature s'interdire tout usage de pesticides dans le sens où on va partager de l'eau entre des plantes et des poissons, et que les poissons ne vont absolument pas tolérer la moindre pollution chimique, en l'occurrence détruite pour chez nous. C'est intensif, c'est duplicable à petite échelle. Alors à petite échelle, quand je parle de ferme à petite échelle, on parle de 1000-2000 m2. Pour une ferme, c'est vraiment petit. Et donc ça peut s'insérer dans l'urbain. On produit très peu de déchets, eux-mêmes valorisables. Il y a un peu de compost issu des productions de plantes. Ça s'applique sur des sols impropres à la culture, tout simplement parce qu'ils sont pollués ou fermés ou bétonnés ou inutilisables pour l'agriculture traditionnelle. On maîtrise énormément de choses en fait dans la culture. Ça nous permet de s'adapter assez bien aux instabilités climatiques. Ça se passe en général sous serre. On peut quand même gérer pas mal de paramètres. On n'a plus le paramètre sol. On arrive assez bien là où certains agriculteurs en sol, là aussi, ont beaucoup de difficultés face aux aléas climatiques. Et j'ai parlé déjà de production animale en milieu urbain. Il n'y en a pas trop. Enfin, c'est très, très rare. La vocation de l'agriculture urbaine, elle évolue avec le type d'agriculture. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jardins associatifs, de maraîchage ou jardins partagés, associatifs, participatifs, du maraîchage en périurbain, c'est présent pas mal sur la ville de Bordeaux. Et on peut imaginer aller jusqu'à donc la ferme sous serre en intra-urbain. La vocation, c'est produire, éduquer. Alors éduquer, on le fait avec les jardins associatifs, on ne le fait pas forcément dans la production. Limiter les impacts de cette agriculture sur l'environnement et puis assurer une certaine sécurité alimentaire. L'historique, j'ai perdu des morceaux. L'historique, rapidement, pour vous expliquer un peu la productivité du système. L'historique, c'est les Chinampas au Mexique. C'est à l'époque précolombienne, juste avant l'arrivée des Espagnols. Sur les hauts plateaux mexicains, il y avait environ 10 millions de personnes. C'était plus que toutes les capitales européennes à l'époque. Et ces personnes se nourrissaient sur place, sans flux logistique. Ils n'avaient pas la roue. Ils la connaissaient, mais ils ne l'utilisaient pas. Et ils arrivaient à avoir 10 millions de personnes sur un espace assez restreint grâce à des techniques qui sont les ancêtres de l'aquaponie. Les hauts plateaux mexicains, c'était des grands, dans la zone de Mexico, c'était des grands lacs et ils faisaient de la culture sur radeaux dans ces lacs. Et petit à petit, ils venaient ancrer ces radeaux sur le fond des lacs à l'aide d'arbres. Et c'est exactement ça, on recrée en fait une symbiose entre le milieu aquatique et le milieu terrestre pour la culture de plantes. Il faisait 7 à 9 récoltes au même endroit par an. Donc c'est extrêmement intensif. Et voilà. je vous présente notre ferme de l'eau à la bouche. Donc, on a créé cette première ferme en aquaponie en France à cette échelle-là, qui est vraiment basée sur l'aquaponie, où on est sur de la culture. Alors c'est à 25 km d'ici, Créon entre deux mers pour ceux qui sont locaux. Le Pout exactement, c'est la petite commune qui colle. On a 880 m² de serre dans lesquelles on fait des cultures de plantes, de l'élevage de truites et une distribution locale. Bon, c'est un projet collectif, on a monté ça à 5 personnes, il manque une personne sur la photo. Ces photos, je vous fais défiler pas mal de photos pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler concrètement. On arrive à avoir des milieux très très productifs où on peut faire une polyculture. Vrai, avec à la fois des légumes, des fleurs comestibles. Je vous ai dit qu'on fournissait une population locale. Nous, on fait du panier diversifié en local pour les gens qui sont vraiment autour. Mais on fournit aussi des restaurants qui sont intéressés du coup par des aromatiques un peu sympathiques, des fleurs comestibles, ce genre de choses. Restaurant bordelais en général. Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez un peu l'aspect intensif des choses, on arrive à avoir vraiment une très très belle qualité de produit avec ça. On fournit des conditions super à nos plantes et du coup on a vraiment un produit super. Des salades, des aromatiques. Diversifié, donc on fait de tout. On fait tous les légumes, de saison en général, sans avoir à chauffer les serres et sans avoir à utiliser d'éclairage artificiel. Donc on est sur... des méthodes de production intensives qui restent très, très, très peu énergivores en final. Des aromatiques. Bon, ça ressemble à ça. À toute saison, là, on est plutôt en début de printemps. Voilà. voyez, j'ai mis cette photo pour l'aspect ergonomique des choses. C'est aussi une méthode qui va permettre d'être efficace. On n'a plus besoin de faire de labour ou de préparation du sol, donc il n'y a pas de mécanisation. Il n'y a pas besoin d'arroser et il n'y a pas besoin de désherber. Bon, on supprime une grosse partie du travail pénible en maraîchage. Et on peut du coup le faire. Là, j'ai mis l'exemple de Paola qui travaille sur la ferme et qui est une personne de petite constitution et qui arrive très bien à faire son métier et qui n'a pas besoin d'avoir des gros muscles pour faire son travail. Plus concrètement, les plantes, elles poussent dans l'eau. Donc ici, on recrée un petit écosystème rivière et les racines des plantes poussent directement dans l'eau, dans cette eau chargée en matière organique par les déjections des poissons. Les poissons, c'est des truites et elles sont élevées dans des bassins hors sol, comme ça. Voilà les truites. On fait tous nos plans à partir de semences bio. On fait la nourriture des poissons est aussi agréée en bio. On n'est malheureusement pas certifiable en bio. À partir du moment où on sort du sol côté plante, on n'est plus certifiable en bio. Et à partir du moment où on recircule l'eau côté poisson, on n'est pas non plus certifiable en bio sur les truites. C'est dommage, on ne crée pas de pollution, donc on n'est pas certifiable en bio. Voilà, bon, c'est pour vous indiquer un petit peu. Vous voyez les plantes donc, sur des radeaux flottants dans l'eau. À toi.
Merci, Greg. Ouais. Donc, moi, en fait, je vais vous parler de la société Polliner Farm. Donc, en fait, il faut tout d'abord savoir que 2000 km, c'est le parcours moyen qu'un ingrédient met avant d'arriver dans votre assiette. Aujourd'hui, pour lutter contre ça, donc nous avons l'ambition de créer la société Polliner Farm, d'implanter une serre de 700 m², dont de 400 m² de culture et de production de truites de Bordeaux. Nous avons donc, quand je dis nous, parce que mon collaborateur n'est pas ici aujourd'hui, mais nous avons l'ambition de devenir les acteurs de la révolution agricole qui est en train de se réaliser actuellement. Moi, je prends mes petites fiches, hein, je suis un peu moins à l'aise que Greg. Donc, mon collaborateur, lui, sera principalement axé sur tout ce qui est commercial et communication, et moi, uniquement dans tout ce qui est technique et recherche et développement. Nous démarrons donc cette aventure, comme nous sommes originaires de la région, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous démarrons cette grande aventure pour nous, ici même, dans Bordeaux. Nous, notre intérêt, c'est de se développer sur les toits de Bordeaux. Je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, nous n'avons aucune certitude quant au toit qui va nous accueillir. Mais nous sommes patients. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel. S'il y a des gens parmi vous qui connaissent ou un toit potentiellement pour nous recevoir ou juste visiter, ça n'engage à rien, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la conférence. Donc, en fait, cette serre aura une vocation commerciale. Notre intérêt sera de produire des légumes sains, de qualité, sans pesticides, comme Greg vous le démontrait. Nous sélectionnerons tout ce qui est semences bio et d'une par leur en fonction de tout ce qui est leur qualité nutritionnelle et leur qualité gustative. Polliner Farm s'inscrira ainsi dans la démarche du développement de l'agriculture urbaine. Donc, comme Greg le développait, ce sera bien sûr une production locale. Nous récolterons à la demande uniquement. Dans un premier temps, nous pourrons subvenir, on va dire, aux besoins des restaurateurs en espérant que faire des paniers pour les particuliers assez rapidement derrière. Notre mode de livraison sera vert. On passera principalement soit par des tricycles, alors on aura des petits gens qui pédaleront pour nous, ou alors nous-mêmes, déjà dans un premier temps, on va commencer par là, ou alors les systèmes de tricycles électriques.
Donc là, au niveau des modes de distribution, hein, y a plein de modèles à inventer. Y a quand même des expériences parisiennes, beaucoup, où on voit qu'on arrive à faire de la vente directe, vraiment. Je pense qu'il y a peu d'urbains qui connaissent les producteurs de leur alimentation. Ça a plein de vertus, ça, hein, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. On va énormément simplifier donc, la chaîne logistique, donc les intermédiaires, et aussi toutes les pollutions générées par la logistique elle-même. Quoi. On ne parle plus de gros camions, là. Non. J'entends du tricycle.
Non, c'est ça. On ne parle plus du tout de gros camions, justement, pour limiter tout ce qui est émissions de CO2. Aujourd'hui, la ferme de Polliner Farm tendra vers le zéro déchet. C'est, on va dire, un combat qui me tient à cœur. Ça fait à peu près un an et demi que je lutte dans ce sens-là. Ça demande personnellement des sacrifices et de changer totalement son mode de consommation, mais ce n'est pas impossible. C'est compliqué, mais pas impossible. Et je pense que si on essayait tous d'aller dans ce sens-là, ce serait bien plus simple pour tout le monde d'aller vers le zéro déchet. Donc, notre combat à court terme, c'est d'accroître l'autonomie de Bordeaux, notamment sur ce type de denrées-là. Nous espérons aussi recruter les prochains fermiers urbains de Bordeaux en espérant, voilà, notre objectif, ce ne sera pas se limiter à un toit. Déjà, on va développer une serre sur un toit, la viabiliser, la rendre pérenne et après se développer peut-être sur d'autres toits de Bordeaux ou dans la région ou en France ou voire ailleurs, qui sait. Aujourd'hui, quand on voit la pression qui est exercée par l'immobilier sur toutes les zones de maraîchage, Voilà, il faut réagir assez rapidement parce que on va être un petit peu. On fait plus d'habitations, c'est chouette, il y aura plus d'gens qui vont arriver, c'est génial. Mais au final, on aura moins de quoi manger. Là, ça va être plus compliqué.
Il y a peut-être des moyens justement de cohabiter entre l'habitat ou le bâtiment commercial et la production maraîchère.
C'est ça. Donc en fait, nous, notre intérêt avec Pollinaire Farm, ce sera de redessiner la ville de demain, justement, avec ce côté agriculture urbaine. Aujourd'hui, je lance un appel à tous les architectes, peut-être qui nous écoutent. Demain, quand vous ferez la conception d'un bâtiment, pensez à des gens comme nous qui voudront s'installer sur un toit. Aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes au niveau des charges. Forcément, l'aquaponie. Greg n'a pas trop développé ce problème-là, mais au niveau des charges, on est assez important parce que les bacs à poissons, la quantité d'eau qu'il faut pour ce système-là, ça demande une organisation non négligeable.
Alors c'est un truc se gère très très bien à la conception. Sur les bâtiments existants, ça complique pas mal les choses.
Voilà, exactement. Donc voilà, après, si vous êtes intéressé, peut-être, si vous avez des appels d'offres ou si vous êtes intéressé par développer ce système-là sur vos bâtiments, n'hésitez pas, venez nous voir.
Je montre un peu tes slides là. Quelques expériences d'aquaponie réussies au niveau européen.
C'est ça.
Aide-moi, je sais pas là.
C'est Urban Farmer qui est à Bâle.
D'accord,
en Suisse. Oui. Ensuite, ça c'est pareil, ça c'est une structure d'Urban Farmer. Donc là, c'est en interne.
Ouais.
Donc on a possibilité soit de faire comme dans la serre à Grec, je ne sais pas si vous avez fait attention, les bacs un petit peu au sol, donc sur des radeaux flottants, soit alors un système de gouttière où l'eau circule sans problème.
Donc ça, c'est des structures beaucoup plus légères qui peuvent s'adapter sur les bâtis existants.
Donc nous avons fait une modélisation parce qu'à l'époque, on avait l'espoir, on l'a toujours d'ailleurs, de s'installer sur la base sous-marine de Bordeaux. Seulement, les contraintes qui sont associées à cette base sous-marine sont pas des moindres. Donc, mais à l'époque, on avait quand même fait cette simulation-là pour vous montrer ce que ça donnait un petit peu. Donc ça, c'était vu d'un autre plan. En fait, quand on était tout petit par rapport à l'espace de la base sous-marine.
Bah, qui est immense, vraiment.
Voilà. Qui est immense, oui.
Et ça,
c'est La Haye. Ça, c'est donc Amsterdam, à côté d'Amsterdam. Pareil, c'est Urban Farmer qui a développé une serre. En fait, Urban Farmer, c'est un petit peu notre modèle. C'est développé comme ça, fait des serres un petit peu... dans pas mal de pays.
Au sixième étage d'un bâtiment, j'ai plus les chiffres de production en tête, mais c'est assez fantastique.
C'est
et toute la distribution se fait en local, juste en dessous. En fait, il y a une épicerie en dessous, et il y a un réseau de distribution sur la ville.
Donc voilà.
Voilà. Merci.
Merci à tous.
J'avais juste une petite slide. Si vous cherchez des infos sur le sujet aquaponie. Il y a à la fois des réseaux publics sur la recherche autour de ce concept qui est quand même innovant et il y a encore très très peu de gens sur le sujet. Il y a un programme de recherche commun français qui s'appelle APIVA. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Et il y a un certain nombre de sociétés, un partenariat public-privé là sur réseau COST qui a créé un outil de mise en relation des sociétés européennes sur le sujet. Et après, il y a les innovations privées. Coucou, c'est nous.
C'est ça.
Donc voilà, des projets en devenir. Et puis, nous, maintenant, on fait aussi de la formation et bureau d'études pour des projets à venir. Voilà, merci de votre attention. Et on va vous laisser la place pour les questions.
Merci.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une question technique, en fait, par rapport aux poissons. D'après ce que j'ai compris, vous les élevez dans un autre endroit, donc j'imagine avec plus de profondeur, et ensuite vous les mettez de temps en temps dans vos bacs pour qu'ils viennent engraisser.
Non, en fait, je vais garder le micro, on va faire tourner. En fait, on va utiliser l'eau, et c'est l'eau le vecteur entre les deux systèmes. Les poissons, ils ne sont pas très très bien sous les plantes, et puis les plantes, elles ne sont pas très très contentes d'avoir des poissons qui leur broutent les racines. Donc on sépare les deux éléments de la chaîne. Mais l'eau est commune, en fait. L'eau circule entre les deux. Si vous voulez, quelqu'un a des questions ? Des questions ?
Allez-y. Ouais. Pardon. Donc vous disiez qu'en gros, une ferme, ça, c'est 800 mètres carrés, quelque chose comme ça, à peu près ?
C'est un minimum, ouais.
Et enfin ça, ça permet de en nourrir, on va dire, à peu près combien de personnes?
Très bonne question. J'avais prévu de vous donner les chiffres. J'ai oublié. Nous, on a dimensionné notre installation pour pouvoir sortir deux salaires, en fait. C'était le critère dimensionnant sur notre ferme et l'investissement associé. Et on va sortir quelque part, comme on a une capacité de production d'environ 15 tonnes de légumes, une tonne de poisson à l'année. À ce stade-là, il y a probablement des marges là-dessus et moyen d'aller plus au-delà de ce genre de production. Donc 15 tonnes, imaginez en ville, c'est pas tout à fait rien. Ouais. Allez-y hein, pour les questions. Non. Allez-y. Ouais.
Je voulais savoir quel type de plantes peuvent être cultivées en aquaponie, ou si toutes les plantes peuvent l'être ou pas.
Alors, on fait vraiment, vraiment toutes sortes de plantes. Le système de culture n'est pas très efficace ou est compliqué pour faire pousser des pommes de terre ou des carottes, par exemple. D'accord ? Tout ce qui descend vraiment sous la terre. Après, on n'est pas très limité. On fait de l'oignon, tout ce qui est rave, céleri, rave, chou rave, tout ce qui pousse à l'interface, betterave, tout ce qui pousse à l'interface air-sol. Là, ça passe. C'est essentiellement une question de comment tenir la plante, en fait. Là, vous voyez qu'on on tient la plante là, soit sur un système flottant, soit à travers des gouttières, là, sur des racines de pommes de terre. On ne sait pas comment les tenir. On saurait les faire pousser, mais on ne sait pas comment les tenir. Il n'y a pas vraiment de limitation là-dessus. Vous avez vu qu'on fait, nous, des plants de saison. Donc, on a en moyenne 8-10 légumes toutes les semaines de l'année. Donc, dans le panier, et on essaye de ne pas faire le même panier toutes les semaines. Ça nous laisse vraiment un choix assez large. J'en profite pour glisser un truc. Tout le monde se pose la question de mais comment elles font les plantes pour pousser dans l'eau. Vous avez tous noyé votre plante d'appartement en l'arrosant un petit peu trop. La problématique, c'est que les plantes consomment de l'oxygène par les racines. D'accord, les processus qui leur permettent d'assimiler les nutriments consomment de l'oxygène. Et donc, si vous avez une eau stagnante, eh bien, la plante elle va consommer par ses racines l'ensemble de l'oxygène présent et puis elle va se mettre à pourrir. On n'est pas du tout dans ce système-là. Hein. On reproduit un écosystème de rivière. On a une eau très, très oxygénée et qui circule en permanence. Et ça, ça résout beaucoup de problèmes. Voilà. Ils mangent quoi, les poissons? Ouais. Les poissons, alors sur notre ferme à nous, mangent un aliment industriel, des croquettes en gros, hein, des granulés, qui sont certifiés bio. Pour notre part, c'est composé à quelque part comme 40% de farine et huile de poisson, et le reste sont des légumineuses et des céréales et un petit peu de vitamines. Les farines et huile de poisson posent problème. Ça continue de participer à la surpêche, d'accord ? Parce que ça, c'est issu de pêche en océan ou, et là on boucle des boucles, on est toujours dans l'économie circulaire, ou de déchets de l'industrie de la transformation du poisson de mer. Alors ça reste un problème hein, parce qu'on a un vrai souci de capacité de pêche dans les océans, on a largement abusé et il y a un joli verrou là, qui vient de sauter sur cette problématique. L'Europe autorise depuis le 1er juillet 2017 les farines, et insectes, les farines d'insectes dans l'alimentation du poisson, les insectes qui sont assez proches de leur nourriture on va dire naturelle, en milieu naturel. Et ces insectes qui sont tout à fait adaptés à recycler tout un tas de matières organiques qui sont issues d'autres productions agricoles et qui seraient tout à fait certifiables en bio. Et comme c'est un maillon très très bas dans la chaîne alimentaire, ils sont particulièrement aussi efficaces à convertir de la biomasse en fait en protéines animales de bonne qualité d'ailleurs, de très bonne qualité même. Pour info, les insectes qui sont retenus sont le ver de farine, on va dire, et la mouche noire soldat, qui ont des taux de protéines largement supérieurs à du bœuf. D'accord ? Donc c'est une nourriture de bonne qualité pour le poisson. Et donc il y a un intrant. Hein. Je vous ai présenté un bel écosystème. Si je sors quelque chose de cet écosystème, il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre, et en l'occurrence, donc c'est l'aliment du poisson. Je vous entends pas. Est-ce qu'on peut passer le micro? Merci. Ouais.
Les déchets que vous produisez, il peut y avoir des... vos poissons, quand vous produisez, ouais, vous les vendez, il y a aussi des déchets, vous pourriez les recycler?
Tout à fait. Alors, Bon, ça reste des tout petits volumes, hein, l'abattage poisson, mais effectivement, il y a les viscères des poissons quand on fait l'abattage. On vend, nous, du poisson vidé sous vide, hein, de manière à ce que vous n'ayez pas à faire ce travail-là. Donc, vous n'avez plus qu'à le cuire ou le congeler. Effectivement, il y a les viscères de poisson. Là, les solutions de recyclage dans le système en lui-même sont un peu complexes. Ça passe très probablement par justement les cultures d'insectes là-dessus. L'autre solution, et celle qu'on utilise nous, c'est du compostage. Il y a une manière de faire ça. Et on arrive à composter sur des surfaces très très raisonnables et de manière efficace, sans effluents et sans problèmes sanitaires. Voilà. Mais par contre, une fois qu'on a du compost, je ne sais pas réutiliser ce compost dans le système. Donc c'est une matière à valeur ajoutée, assez compacte, qu'on va valoriser sous d'autres formes, dans les cultures en sol plutôt.
Et justement, en ce moment, par rapport au compost, est-ce que vous avez déjà des partenariats avec des fermes au niveau des cultures ?
Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas fait ce travail encore. Alors, on crée du compost. C'est jamais perdu le compost. On est en périurbain. On a 2 hectares, dont seulement 1000 mètres carrés sont couverts par des serres. Donc, on peut, et on a des cultures associées à côté en périurbain. Alors, c'est vrai que la question en urbain est un peu différente. Et là, ça reste à valoriser localement. Voyant le nombre d'initiatives d'agriculture, qu'elles soient commerciales ou pas, là, qui se pointent en ville, je suis assez serein qu'on trouve les moyens de recycler ça de manière efficace et pertinente, quoi. Mais c'est des filières qui restent probablement à créer aussi. Hein. Il y a la culture de champignons qui peut se faire en ville. Il y a plein de solutions. Hein. Ouais. Ah, champignons, ça vous parle ?
Bonjour.
Bonjour.
Pour rebondir un peu sur la question de la nourriture des poissons, est-ce que vous la produisez vous-même
Alors c'est quelque chose que j'ai fait à ma petite échelle domestique. Je ne vous ai pas mis les photos, mais on a fait quelques années de développement à la maison avant de commencer à partir sur une ferme. Et à échelle domestique, déjà c'est compliqué. À l'échelle d'une ferme, pour vous donner un ordre de grandeur, on va consommer une tonne 5 d'aliments par an. Ça représente beaucoup de... Les solutions, hein, ce serait de l'insecte, ce serait du végétal éventuellement, mais il y a peu de poissons qui sont comestibles et végétariens. Donc nous, on est vraiment parti sur la truite pour ces aspects, on va dire, elle est commercialement acceptable pour tout le monde. Tout le monde est content de manger de la truite. Il y a beaucoup moins de gens qui ont envie de manger de la carpe, par exemple. Et du coup, ce serait produire des insectes à notre échelle. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas à cette échelle-là. Ça reste complexe. Ça se développe énormément. Il y a au moins 4-5 sociétés d'ampleur qui commencent à pousser fort là, en France suite à l'autorisation là, donc de juillet sur les farines d'insectes en nutrition animale, dont certains travaillent sur la nutrition humaine. Hein. Bon, je ne sais pas si vous êtes prêts tous là. Moi, j'ai goûté. Hein. Il y a des solutions intéressantes en insectes pour la nutrition humaine. Je pense que culturellement, on n'est pas prêts, mais c'est possible. Et donc, à notre échelle, non, on ne sait pas faire. Mais par contre, il y a des sociétés qui se mettent à vraiment développer ça et qui pourront répondre à cette problématique. Hein. Qui savent déjà y répondre, mais qui sont en train de prendre de l'ampleur. Quoi.
Ok, très bien, merci. Parce qu'en fait, j'avais entendu parler de la lentille d'eau. C'est juste... Ouais.
Alors, on en fait. Donc ça, c'est du végétal. Hein. C'est un fort taux de protéines, c'est intéressant. La truite, elle n'en veut pas. Hein. Ouais, tout simplement. Et il n'y a pas tous les acides aminés dont aurait besoin le poisson pour former ses protéines à lui, c'est pas tout synthétisé. Et du coup, ça peut être un complément, mais ça sera jamais, en tout cas pas pour des poissons carnivores, la source principale de protéines. Voilà. Ouais.
Juste par rapport à l'énergie, l'électricité pour vos pompes, vous avez une solution en interne, c'est peut-être un peu compliqué.
Alors nous, on a beaucoup travaillé sur les histoires d'énergie. Moi, ça me tient beaucoup à cœur. On n'est pas mécanisé, etc. Les consommations d'énergie sur la ferme, c'est des pompes qui font tourner l'eau et des pompes qui amènent de l'air. D'accord ? Moitié-moitié en termes de budget énergétique. Je vous ai dit, sur notre ferme, c'est de l'ordre de 2 kW en continu. Donc ça reste des consommations assez faibles. On pourrait l'étaler avec du solaire assez facilement sans avoir des installations qui soient démesurées. Aujourd'hui, très clairement, nous, on n'avait pas le budget pour faire cet investissement là. Mais c'est quelque chose qui me paraît assez réaliste. Il y a d'ailleurs pas mal de gens aussi qui travaillent sur les serres solaires. Il y a sûrement des partenariats à trouver. Financer la serre, c'est toujours compliqué. C'est surtout en urbain, on va être soumis à des normes beaucoup plus drastiques que ce qui se fait en agricole périurbain, par exemple. Donc il y a un peu de recherche à faire là-dessus. Mais voilà, on est sur des budgets énergétiques quand même super bas. Et ça, c'est vraiment le résultat de l'étude. J'en profite pour sensibiliser là-dessus. C'est facile de produire en aquaponie avec des gros budgets énergétiques. Ça l'est beaucoup, c'est beaucoup plus complexe de le faire avec des basses énergies. Et ça nécessite vraiment de l'étude. Mais ça change tout en termes de rentabilité finale, etc. Là, je crois vraiment, moi, à mon sens, que l'aquaponie, ça passe pas par la haute technologie. Ça doit rester de l'agricole si on veut obtenir une rentabilité, quoi, et que ce soit vraiment une solution de production plus que de démonstration.
Et justement, pour rebondir sur cette question, de nos jours, on a la montée du low-tech, justement. Et est-ce qu'il serait possible d'imaginer des systèmes qui marcheraient avec la gravité à différents niveaux? Ce serait possible ou envisageable? Alors,
j'ai vraiment cette intensité là de l'écosystème. Il va vraiment nécessiter notamment de l'oxygène et puis de pouvoir faire promener tous ces nutriments entre les poissons et les plantes. En gravité pure, c'est pas possible à ma connaissance, mais on peut rester vraiment quand même sur des consommations faibles, comme je te le disais. Mais on sait pas faire ça sans pompe. Aujourd'hui, je sais pas faire. Ouais. J'ai une question par rebond. C'était quoi la question ? Oui ? Non ? Ah, non. Il y avait des bas.
Vos cuves sont toutes dans quel matériau, en fait ?
Ah, les matériaux, ouais. C'est une très bonne question. Vous avez vu beaucoup de plastique, là. Hein. Et effectivement, c'est une question qu'il faut se poser, sur lesquels on a pas mal travaillé aussi. On va être dans un milieu donc eau, enfin on va utiliser en gros de l'eau très oxygénée, extrêmement corrosive de manière générale pour tout ce qui est métaux, pour tout ce qui est on va dire matière organique, bois, etc. Voilà, dans ces conditions-là, il n'y a pas grand-chose qui tient. Donc la solution en termes de matériaux, c'est très clairement le plastique. Après, il y a plastique et plastique. Et on utilise nous que des plastiques qui sont certifiés pour le contact alimentaire. Je ne peux pas tout à fait dire que, mais on va dire toutes les tuyauteries sont des tuyaux certifiés pour l'eau potable. Les cuves sont en l'occurrence en polypropylène certifié. Et voilà, on a fait un gros boulot là-dessus pour sourcer tous les matériaux qui vont bien pour jamais rentrer en contact de l'eau, quelque chose qui soit néfaste. Je parle notamment des radeaux. On a développé une filière industrielle pour ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, si vous vous y intéressez, à l'aquaponie, qui font ça avec du polystyrène bâtiment. Rempli de retardateurs de flammes absolument toxiques, voilà, cancérigènes reconnus, etc. On a, nous, aujourd'hui, une solution avec les certificats de contact alimentaire.
Moi, c'était juste pour vous, par rapport à votre envie d'autoconsommation, d'autosuffisance énergétique. Je crois qu'il y a IKEA qui va bientôt vendre justement des kits d'autoconsommation, parce que Tesla l'avait fait, mais un peu plus cher, et okay. IKEA le fait deux fois moins cher bientôt.
D'accord.
À étudier.
Je
pour vous.
Voir. IKEA, ça me surprend beaucoup. Hein, quand
ouais, même. Mais, okay. C'est surprenant. Bon. Mais...
Après, le meuble en Formica. D'accord.
Et pour les bacs, est-ce qu'il y aurait moyen de recycler les gros tanks en plastique, les cuves de 1000 litres, les tanks IBC, je ne sais pas si
ouais,
vous avez...
Oui, je vois bien. Oui, il y a tout à fait moyen. Il faut s'assurer qu'il y ait en fait... pardon, je me suis perdu là, j'ai pensé à autre chose en même temps.
Qu'il y ait que de l'eau dedans.
Que ce qu'ils ont contenu avant soit de l'alimentaire ou quelque chose qui est nettoyable. Donc en recyclage, ça se fait. Ces bacs-là, à l'origine, ils sont certifiés. Ouais, c'est du polyéthylène. Et les bacs, oui, à l'échelle domestique, ça peut fonctionner. Ce n'est pas idéal quand même, dû à la forme. Pour tout ce qui est petite question autour des systèmes plus domestiques, je sais pas si, voilà, j'ai écrit un petit bouquin pour ceux que ça intéresse. Ce n'est pas très adapté à la conception de ferme urbaine, mais ça répond à pas mal de questions.
Par rapport à votre exploitation, là, c'est vrai, vous nous avez beaucoup présenté votre rapport de producteur au consommateur. Est-ce que chez vous, à Créon, vous imagineriez de travailler avec des partenariats avec des voisins, d'autres agriculteurs, des gens qui ont d'autres spécialités pour toujours aller un peu plus loin dans cette logique?
Oui, donc toujours dans la logique de distribution circuit court. Effectivement, on travaille déjà, en fait. On a rassemblé déjà tous les maraîchers de notre coin la semaine dernière. Voilà, à essayer de trouver des synergies. Et puis, on est sur un mode de distribution circuit court en périurbain. La plupart des gens qui habitent dans nos communes viennent travailler ici, à Bordeaux. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Et c'est vrai que faire le tour de tous les producteurs, pour eux, c'est compliqué. Donc il y a un vrai travail qu'on a initié aussi pour rassembler des producteurs et faire des points de vente communs qui permettent d'avoir en direct du producteur les légumes, le miel, le pain, la viande de veau, la viande, la volaille. Qu'est-ce que j'oublie? Bon, le vin, c'est pas très compliqué dans notre région. Mais il y a un vrai travail pour le fromage de chèvre. Voilà, on a fait le tour de toutes les agriculteurs à notre échelle, c'est-à-dire petite agriculture, pour justement faciliter la vie des gens qui viennent acheter chez nous. Après, on travaille aussi sur toutes les nouveaux modes de distribution, réservation. On récolte que sur réservation. Ça veut dire qu'on s'astreint en fait à avoir. C'est contraignant pour le client, mais on est 100% frais toujours parce qu'on va récolter pour vous. Si vous nous commandez quelque chose avant le jeudi soir, le vendredi matin on cueille. Le vendredi soir, vous avez quelque chose qui est cueilli du matin même. On ne stocke pas du tout. Et ça garantit une fraîcheur introuvable ailleurs, en gros. Et c'est ce qui fait un peu notre succès localement. Et voilà. Et tous les autres producteurs autour de chez nous sont dans cette démarche-là.
Merci. Ce que vous nous présentez là m'a l'air très très séduisant. Ça a l'air un cycle quasiment naturel, puisqu'on comprend bien que si on traite les plantes, on tue les poissons. Si on traite les poissons, on tue les plantes. Très bien. Ceci dit, ça, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ce que vous nous avez expliqué là. Il me semble qu'il serait judicieux de se former, pas uniquement qu'en regardant des sites internet, parce que pour l'avoir fait, je vois qu'il y a des choses un petit peu légères, voire décalées. Y a-t-il, en plus certainement de ce que vous avez présenté, mais vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la formation, ce qu'on peut trouver en France pour nous aider, et probablement qu'il est judicieux de commencer à petite échelle avant de s'engager sur un projet professionnel.
Oui, merci beaucoup pour la question. Oui, effectivement, la ferme urbaine en aquaponie, bon, bah, nous, moi ça fait 5 ans que je suis dessus, H24, jour et nuit, ça nous a pris un peu de temps. Il est sûrement pertinent de commencer doucement, petit, de se frotter à ce mode de culture avant de partir sur des projets importants. D'accord, ça c'est une première chose. Et puis deux, pour la formation, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Hein. Moi, ça fait 2 ans et demi que je forme des gens. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont passées pour apprendre et voir tout dans les détails. Et donc on propose de la formation sur site directement à 25 km d'ici. Afin de vraiment de passer le mot et puis d'expliquer les détails. Effectivement, le petit cycle, là, le schéma que je vous ai montré avec un joli petit cycle, bon, c'est un peu plus complexe que ça, et il y a effectivement une certaine technicité dans ce mode de production quand même. Ouais.
Merci.
Donc, beaucoup en parlent sur Internet, et on a encore besoin de progresser tous, et attention à ceux qu'on parle sans avoir jamais trop fait, parce que c'est des fois un peu léger, comme vous le suggérez. Merci, c'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup.